Des mots pour le dire, une émission présentée par Edonès Banti avec Michel Théron.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire des mots pour le dire. Pour cela, une voix nommée Jésus, l'Évangile selon Thomas, livre édité chez Dervy et écrit bien évidemment et présenté chaque semaine par Michel Théron. Bonjour Michel.
Bonjour Edouard, bonjour à tous.
Alors, j'aime bien le titre aussi au-dessus de votre nom, « L'être et l'esprit », c'est ce qui est marqué sur le livre. L'être et l'esprit, c'est vrai que c'est deux choses qui sont extrêmement importantes, surtout par les temps qui courent, où le matérialisme l'emporte sur tout le reste. Et alors, d'habitude, je prends toujours une citation, cette fois-ci, je prendrai celle que vous mettez en début du livre, de Gandhi, qui dit « Soyez vous-même le changement que vous voulez voir dans le monde. Soyez vous-même le changement. » C'est très important. Et on dit on est dans un monde en mutation, et dans ce monde en mutation, il y a beaucoup de donneurs de leçons. Hein. Yaka, c'est le clan des Yaka. Et puis, faites ce que je dis, mais faites surtout pas ce que je fais. Donc, c'est une citation de Gandhi. Je trouve toute sa force pour aujourd'hui.
Absolument. Il y en a qui pétitionnent, il y en a qui défilent, qui signent des manifestes, etc. Et dont la vie privée contredit totalement l'image de l'homme public qu'il donne à l'extérieur, vous voyez. Donc il faut d'abord se changer pour une meilleure socialisation, d'abord, et pour espérer voir arriver le changement à l'extérieur par une espèce de contagion, si vous voulez. Il y a une émission que j'aime bien à France Inter, qui est une radio concurrente, très douane, c'est CO2 Mon Amour, qui passe tous les samedis de 14h à 15h. Et bien l'animateur dit, nous n'attendons, et c'est une émission écologique, hein, nous n'attendons pas le changement, nous sommes le changement. Voilà, nous sommes le changement. Donc ça me semble très intéressant. Si on s'intéresse à l'écologie, il faut d'abord se comporter soi-même de façon écologique, si vous voulez. Voilà.
Alors quelque chose qui ne change pas, c'est la continuité. Nous allons aborder dans un premier volet la fin de ce triptyque masculin-féminin. Et là aussi, il y a aussi pas mal de changements à découvrir dans le rapport homme-femme, puisque nous rentrons aussi dans une phase dans la modernité de l'égalité. D'ailleurs, on le voit dans les élections qui vont avoir lieu bientôt pour les départementales. Dans toutes les affiches, il y a toujours un homme, la parité, un homme, une femme, un homme, une femme.
Absolument. Alors, il y a complémentarité entre ces deux principes. Hein. Supposons que le masculin soit le mouvement et le féminin le repos. Eh bien, tous les deux, au fond, sont complémentaires. Et là, il y a un logion dans l'Évangile selon Thomas, c'est le numéro 50, qui n'a aucun correspondant dans les canoniques. Le voici. Si l'on vous interroge, quel est le signe de votre Père qui est en vous ? Dites-leur, c'est un mouvement et un repos. Alors c'est assez énigmatique et curieux, puisque inattendu hein, pour nous. Mais c'est vrai qu'il y a cette alternance en nous de ces deux phases. On cherche le soleil quand on a froid et on cherche l'ombre quand on a chaud. Hein. C'est un mouvement de pulsation périodique. C'est comme une main qui s'ouvre et qui se referme, ou bien comme la systole et la diastole du cœur. Hein. Et vous avez la même chose chez Lao Tzu. Lao Tzu nous dit dans le Logion 40 du Tao Te King, le livre de la voie et de la vertu, la voie, le Tao, hein, il nous dit « Le mouvement triomphe du froid, le repos triomphe de la chaleur. » Alors vous connaissez, Redouane, bien sûr, l'idéogramme du Tao. Hein. Et bien dans cet idéogramme, la partie blanche séparée de l'autre partie par une sorte de S contient un cercle noir, et la partie noire contient un cercle blanc. Pour montrer cette complémentarité. Alors on pense au passage de Lao Tzu que j'ai cité dans la précédente émission. Connais le blanc, adhère au noir, soit la norme du monde. Alors le principe lumineux, c'est le principe yang, YANG, le masculin. Et le principe obscur, c'est le principe YIN, YIN, qui est le féminin. Donc il y a du féminin dans le masculin, comme dans l'idéogramme du Tao, et du masculin dans le féminin. Donc dans l'activité, on peut dire, ou dans le mouvement, on peut dire qu'il y a le repos en puissance, puisque le repos nécessairement suivra le mouvement, et dans le repos, il y a l'activité en puissance. C'est une succession chronologique. Au jour succède la nuit, à l'été succède l'hiver. Alors, vous savez que les Chinois, nous parlions de Lao Tzu, c'est un peuple, ou c'était un peuple essentiellement agricole. Peut-être l'est-il encore. Il me souvient, Redouane, que vous m'aviez dit hors antenne que c'est le seul pays où vous n'avez pas été, la Chine. Et vous espérez aller un jour, voilà, un grand voyageur que vous êtes. Donc, les Chinois, c'est un peuple essentiellement agricole, et dans le monde paysan, la vision des rythmes est essentielle. Alors, il y a succession chronologique, mouvement, repos, mais aussi coexistence métaphysique. Aucun principe n'existe sans l'autre, et leur union dans l'idéogramme est une image de totalisation. Et alors notre évangile, selon Thomas, le dit avec ses propres mots, le signe du Père, c'est à la fois un mouvement et un repos. Alors j'ai dit que cette parole n'existait pas dans les évangiles canoniques, pourtant il me semble qu'elle témoigne d'une réflexion plus profonde et plus complète que le simple et l'éloge paradoxal de la faiblesse qui a été retenu comme message essentiel de Jésus. L'abaissement, la kénose dont il est question dans le texte du Nouveau Testament. L'abaissement, le fait de se faire petit. Mais cette alternance mouvement-repos, qui n'exclut rien, ni masculin ni féminin, me semble plus réaliste parce qu'elle procède par intégration plutôt que par exclusion. Simple valorisation du petit par rapport au grand. Alors, nous sommes des Occidentaux, et nous, Occidentaux, nous sommes épris d'action, et nous voyons dans le repos quelque chose de négatif ou d'ennuyeux. Lorsque j'ai écrit ma théologie buissonnière, un de mes amis, un de mes voisins de quartier, s'est étonné que j'avais fait une entrée consacrée à repos. Pour lui, repos, c'était rien, quoi, d'une certaine façon. Ce qui comptait, c'était l'action. Il y a un activisme occidental fondamental, depuis Faust de Goethe, par exemple. Au début était l'action. Faust refait le prologue de Jean dans la pièce de Goethe, et au lieu de dire au début était le verbe ou la parole, il dit au début était l'action, das tun, vous voyez. Bon, donc c'est le tropisme de notre Occident. Mais pourquoi dévaloriser ainsi le repos? Pourquoi l'assimiler à la mort? Par exemple, c'est ce que faisait sûrement mon voisin. Il y a dans le repos une énergie paradoxale. Aristote l'a nommé energeia akinesis. C'est du grec. Akinesis, kinéma, c'est le mouvement, d'où le cinéma, etc. Et alpha, c'est un alpha privatif. Donc une énergie qui vient de l'absence de mouvement. Moi, j'imagine, après Cooper-Powys, dans un livre essentiel que je conseille à mes auditeurs, qui s'appelle L'Apologie des sens, il imagine le moi ichthyosaure des premiers temps. Imaginons un saurien, un grand crocodile dans son marigot, comme ça. Il est immobile, mais il observe autour tout ce qui se passe. Eh bien, il s'enrichit de son observation. Alors, je sais que nous donner l'image du saurien dans son marigot, c'est pas très gratifiant pour nous. Nous préférons être comparés à un lion, par exemple, ou à un aigle aux yeux perçants, etc. Mais le lion, Don, vous le savez très bien, puisque vous avez été en Afrique, il dort la plupart de la journée. C'est la lionne qui chasse, il me semble.
Oui, tout à fait.
Oui. Donc, on dit le lion superbe et généreux, mais c'est aussi un animal superbement paresseux. Bon. Alors, je ferai l'éloge assez de l'immobilité. Dans le livre de Cooper-Powys, insiste bien là-dessus, il se trouve un livre de poche. J'en conseille la lecture aux auditeurs. Alors, vous savez que dans l'évangile selon Luc, il y a une opposition entre la vie contemplative, que l'on appelle en grec bios theoretikos, et la vie active, en grec bios praktikos. c'est l'épisode de Marthe et de Marie. Lorsque Jésus descend chez ses deux sœurs, eh bien, Marthe houspille sa sœur Marie en lui disant, mais remue-toi, fais quelque chose pour bien accueillir notre hôte. Et Jésus répond à Marthe, 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 tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. C'est Luc chapitre 10, verset 41-42. Je dis la bonne part parce qu'en grec vous avez ten agathen merida. On traduit toujours la meilleure part, hein. Mais en fait, littéralement, c'est la bonne part. Bon. Alors, dans l'évangile selon Thomas, le repos est constamment valorisé. Mais selon le logion que j'ai cité en commençant, il est inséparable du mouvement, puisque le repos prépare peut-être en secret le mouvement qui suivra. Et de la même façon, à partir de cette loi de complémentarité, Lao Tzu comprenait toujours le Tao, la voix, comme un retour après la phase d'affirmation, le mouvement, un retour à la phase d'indifférenciation et de contemplation. Le repos qui la précède et la prépare. Et le sage, nous dit Lao Tzu, retourne à l'état de ce qui n'a pas de limite, à l'état de bois brut, etc. Pareillement, pour notre évangile selon Thomas, l'essentiel, c'est une régression. Alors attention, régression, ordinairement en français, pour la majorité des gens, est négatif, péjoratif, la régression, etc. Eh bien non, je prends régression au sens propre, un retour, gradi, c'est marcher, régredior, bon, un retour, et c'est un retour qui peut être très positif. Vous voyez ce que dit le Logion 49, toujours dans l'évangile selon Thomas, Jésus a dit, heureux êtes-vous les solitaires et les élus, parce que vous trouverez le royaume, comme vous êtes issus de lui, vous y retournerez. Vous voyez? Donc revenir, et non pas attendre quelque chose de nouveau. Alors si on compare maintenant, si on prend un peu de la hauteur, Redouane, si on voit l'histoire du christianisme dans son ensemble, il me semble que pendant 1000 ans, le christianisme a été envisagé sous cet angle de la bipolarité masculin-féminin, il a été pendant tout le premier millénaire, soumis au pôle féminin. Il y a eu un christianisme plutôt féminoïde. Regardez en musique le chant grégorien, qui est assez féminoïde. Il est chanté par des moines, et ces moines portent une robe. Il y a un côté féminin, si vous voulez, de l'accoutrement. Regardez aussi la voûte romane, qui est une forme creuse et féminine, qui est comme un berceau inversé de l'arc en plein cintre, vous voyez, hein. Mais à partir du second millénaire, et surtout à partir de l'époque gothique, alors le chant se met à escalader le ciel dans la polyphonie. Alors la différence entre le chant grégorien et la polyphonie, c'est que dans les polyphonies, les voix se superposent, si vous voulez. C'est comme une escalade. Le grégorien est, je dirais, un chant plutôt monodique, me semble-t-il. Je ne m'y connais pas beaucoup en musique, mais il y a quand même une très grande différence. Alors en architecture, à la voûte ronde, la voûte romane, la voûte féminine a succédé la flèche gothique, et c'est une flèche, je dirais, alors phallique en termes freudiens, c'est une flèche qui veut escalader le ciel, et toutes les cathédrales ont été à l'assaut du ciel, chacune mettant son point d'honneur à être plus haute par son clocher que la précédente. Au point qu'il y a eu des clochers qui se sont effondrés, vous le savez ça, à Amiens par exemple, etc. Bon, il y a eu une escalade dans tous les sens du mot pour aller vers le ciel. Et donc tout cela, c'était masculin. Alors, d'après Lévi-Strauss, dans Triste Tropique, le christianisme occidental est devenu masculin en s'opposant à l'islam, religion masculine, dit Lévi-Strauss, à l'époque des croisades, vous voyez. Alors je ne sais pas s'il a raison, il y a peut-être une hostilité de la part du judaïsme de Lévi-Strauss vis-à-vis de l'islam, et il y a un chapitre contre l'islam dans Triste Tropique qui est très très important. Voilà, je ne sais pas s'il a raison, je ne sais pas, je dirais qui a commencé, comme on dit, parce que dans l'islam il y a des mouvements comme le soufisme, hein, qui sont des mouvements de dépossession, je dirais féminoïdes, hein, vous voyez, donc voilà. Alors, quoi qu'il en soit, quand même, notre architecture depuis l'époque gothique, c'est une architecture d'affirmation de soi, vous voyez, hein. Alors que dans le Notre Père, bon, il n'est pas dit d'escalader le ciel, mais il est dit que le ciel vienne en nous, hein, vienne ton royaume, dit le Notre Père, et surtout comme au ciel, ainsi sur la terre, vous voyez, et non pas sur la terre comme au ciel, comme on traduit très mal, hein, puisque en grec, os en urano kai epiges, et en latin, sicut in caelo et in terra, montre bien l'intériorité du ciel par rapport à la terre. Il faut traduire comme au ciel, ainsi sur la terre, c'est-à-dire que le ciel doit descendre sur la terre, et que la vie des ici-bas doit être céleste. Hein. Alors je ne sais pas pourquoi on a inversé dans nos traductions en mettant sur la terre comme au ciel, alors que le texte grec original, sa traduction latine dans la Vulgate, dit exactement l'inverse. Qu'il en soit fait sur la terre comme c'est au ciel, le ciel doit descendre en nous, vous voyez. Vous voyez l'importance des traductions. Nous avons souvent insisté là-dessus. Hein. Nous sommes peut-être trop pinailleurs, comme on dit trivialement, à propos des textes. Hein. Mais en fait, il faut voir bon, l'ordre des mots, etc., pour voir parfois des différences d'anthropologie culturelle très importantes.
Change complètement le sens.
Voilà, dérive d'une telle ou telle option textuelle. En tout cas, il me semble que le message initial de Jésus était un message assez féminin. Je crois que c'est Romain Gary qui dit que Jésus est le premier à avoir parlé d'une voix féminine. Eh bien, on aurait bien intérêt aujourd'hui à revenir à cette voix féminine que l'évangile selon Thomas est capable encore de faire résonner en nous. Thank you.